Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et on va parler dans cet épisode une nouvelle fois de ce procès de Epic et Apple, où les deux sociétés s'affrontent. On va pas faire toute une rétrospective, puisque vous avez plein d'épisodes qui en parlent, et vous les avez dans les notes de l'épisode. Mais une nouvelle fois, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Aurélien. Salut Aurélien.
Salut.
Aurélien Condomine, qui est avocat spécialisé dans les problématiques antitrust, et tu as déjà fait des éclairages autour de ce sujet, donc tu nous avais permis d'y voir un petit peu plus clair au moment où les événements s'étaient déclenchés. On avait aussi un petit peu parlé lors de l'ouverture du procès, et ça y est, le procès fait l'objet d'un verdict, et c'était l'occasion un petit peu d'avoir un petit peu ton regard. Et puis c'est peut-être un petit peu la première question qu'on va aborder avec toi, parce qu'il y a eu plusieurs interprétations dans la presse autour de ce verdict. On savait pas trop si Apple ou Epic avait gagné. On va le rappeler, hein, peut-être en un mot, c'est que Apple est désormais obligé, suite à ce jugement en tout cas, et on va voir évidemment la mise en œuvre, mais d'autoriser les développeurs à intégrer un lien pour les paiements in-app, donc spécifiquement pour les jeux qui sont disponibles sur l'App Store. Alors on a un petit peu de mal, Aurélien, à savoir qui a gagné dans cette histoire. On a un peu le vrai et le faux. Est-ce que tu peux nous donner ton regard et ton interprétation?
Oui, alors c'est pas si simple que ça. C'est vrai que Tim Sweeney lui-même, le patron d'Epic, a donné des tons plutôt d'insatisfaction. Et c'est vrai que sur le fond de ce qu'il avait demandé, ce qui lui importait vraiment, c'est-à-dire débloquer les paiements in-game, et puis éviter aussi cette commission de 30% d'Apple, a priori.
Et l'installation d'app en dehors de l'App Store d'ailleurs.
A priori, Epic a plutôt perdu, hein, même carrément perdu. Il y a juste une injonction, celle que tu viens de citer, mais qui est basée sur une sinistre loi californienne un peu différente de l'antitrust classique, mais on pourra en parler, qui vise alors non pas forcément à donner des liens vers des systèmes de paiement externes, hein, mais plutôt vers de l'information, permettre de faire de la sortie, on va dire, la sortie du jeu pour aller vers un site internet, par exemple.
Il faut rappeler peut-être que dans les règles de l'App Store, il y a interdiction pour les développeurs de simplement dire venez sur tel site pour gérer vos données, quoi. C'est aujourd'hui interdit. Là, a priori, ça remet un petit peu en question cette interdiction qu'inflige Apple aux développeurs.
Exactement. Mais bon, après, sur le gros morceau, hein, qui était quand même de mettre en place dans son propre jeu sur iOS, son propre système de paiement, ça non, là il n'y est pas parvenu, Tim Sweeney. C'était quand même ça son vrai cheval de bataille, et donc il va devoir continuer à payer des commissions s'il veut, mais ça c'est pas, l'avenir le dira, s'il veut réintégrer iOS, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Bien sûr. Écoute, ça nous permet d'avoir notre arbitrage, en tout cas entre qui a gagné et qui a perdu. Bon, concrètement, si on suit le jugement, Epic est débouté de ces demandes, mais il y a quand même un petit complément. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs pourquoi sur le verdict Apple a gagné un peu sur cette question des paiements in-game?
Alors, bon, le jugement, il fait à peu près 200 pages, hein, donc c'est un gros morceau. Je vais pas vous faire un résumé complet, mais je pense qu'il y a quand même plein de choses très intéressantes dans ce jugement. Juste pour mémoire, pour rappel, ils avaient décidé, les deux parties avaient décidé de ne pas passer par un jury, alors que ça aurait été possible, hein, aux États-Unis d'avoir un jugement par un jury. Donc c'est un juge professionnel qui a rédigé ça tout seul dans son coin. Alors déjà, il y a une foultitude d'informations intéressantes sur les marchés, sur Apple, sur combien d'argent est gagné par-ci par-là, donc c'est très, très 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 intéressant. Mais le fond du sujet, ce qui fait que Apple l'a emporté, c'est que Apple a réussi finalement à faire avaler au juge que il n'avait pas une position dominante sur le marché, et que par ailleurs il y avait quand même certaines justifications aux restrictions qu'il avait mis en place. Et donc sur cette histoire de marché pertinent, qui est vraiment la clé de ce genre de dossier, parce que on est dominant sur un marché, donc ça suppose déjà de définir ce marché. Le juge a rejeté les deux définitions de marché qui étaient données à la fois par Epic et par Apple. En gros, Epic disait il y a un marché très spécifique des paiements in-game de Apple, et Apple disait oui, mais tout ça c'est pas un marché pertinent. Le seul marché pertinent, c'est le marché du jeu vidéo. en général. Et le juge a dit non, non, moi j'écarte tout ça. Moi je dis, il y a un marché pertinent, c'est le marché des transactions financières dans le domaine des jeux sur mobile. Et il a même été jusqu'à exclure la Switch, par exemple, de ce marché-là. Donc c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'il y aurait un marché des transactions financières sur mobile pour les jeux. Et le juge explique que c'est une industrie de 100 millions, 100 milliards, pardon, de dollars. Donc c'est un truc énorme. Ce qui est assez amusant, il y a même des définitions. Ils essaient de définir qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo. Alors on écoute un expert qui dit ah mais c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo finalement? J'ai l'impression que c'est un truc où il y a de la progression sur un score, soit tout seul, soit avec un groupe, etc. Donc tout un tas d'experts qui se penchent sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est que la cour, enfin le tribunal, est allé regarder très précisément la part de marché d'Apple sur ce marché des transactions financières en matière de jeux vidéo, est arrivé à une part de marché de 55% quand même, hein, ce qui est énorme, en expliquant que le jeu vidéo, c'est vraiment ce qui drive la finance chez Apple. C'est à peu près 80% des facturations sur l'App Store, hein, c'est les jeux,
C'est
sachant que
vraiment
là-dedans.
énorme, hein,
Non,
en part.
ce qui est énorme, hein, c'est une montagne d'argent. Et là, le juge dit, oui, mais finalement, pour être dominant, en droit américain en tout cas, il faut quand même avoir un peu plus que 55%, ce qui est fou, hein. C'est-à-dire que le seuil est placé plutôt aux alentours de 65 à 70% de part de marché pour être dominant. Donc Apple n'est pas dominant, donc il a le droit de faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le jugement. Alors c'est pour ça que certains commentateurs ont dit que Apple avait peut-être gagné, mais quand même le jugement notait que Apple faisait tout un tas de choses anticoncurrentielles. Notamment, le juge constate que la rentabilité, on va dire le bénéfice qui est déduit de cette, enfin qui résulte de ces commissions, il est de plus de 75%, ce qui est énorme. C'est une montagne d'argent sur laquelle en face de laquelle il n'y a pas vraiment beaucoup de coûts en réalité. Hein. Donc ça veut dire que cette montagne d'argent qui va dans la poche d'Apple, elle est directement liée à ce côté monopolistique d'Apple sur, en tout cas, son store, hein, qui est renforcé donc par les restrictions qui sont sanctionnées, enfin qui sont pas sanctionnées, mais qui font l'objet de la plainte d'Epic. Le juge va même jusqu'à dire qu'il est probable que tout ça ait un effet sur les prix des applications à la hausse, qu'il est probable que ça nuit aux développeurs de jeux importants qui auraient les moyens de faire leur propre système de paiement, et que finalement on peut quand même se poser des questions sur les effets de tout ça sur les consommateurs. Et ce qui sauve Apple, outre le fait qu'ils ne sont pas considérés comme dominants, c'est que le juge regarde quand même de façon favorable les justifications qui sont apportées par Apple, qui notamment consiste à dire que ce que Apple vend, on va dire, avec son système in-game, c'est la sécurité et la protection des données. Et c'est là qu'apparemment Epic n'a pas complètement bien fait son travail, parce que le juge relève que Epic n'a pas suffisamment démontré qu'avec un système autre, on aurait pu apporter des solutions de sécurité équivalentes, alors que je pense que techniquement, ça aurait probablement été possible de le justifier. Donc c'est quand même c'est plein de choses intéressantes, ce jugement, plein d'enseignements, mais au final, en gros, Apple n'est pas dominant, alors qu'il a une grosse part de marché, et Apple montre quand même qu'il y a certaines justifications liées à la sécurité. C'est ça, les 200 pages de décision, en gros, hein, qui finalement donne tort quand même sur ce qui intéressait vraiment Tim Sweeney avec son fameux Liberty Project qui visait à faire sauter ses verrous.
C'est intéressant en tout cas de voir que bon bah on s'en serait douté hein, mais tu avais vu évidemment juste dès le départ, tu l'avais bien dit que l'enjeu de la définition du marché a été central. Je pense que ça doit être un élément évidemment crucial dans ton métier et dans ces problématiques juridiques. Donc ça évidemment ça s'est vérifié. C'est intéressant de voir aussi que le cloud gaming, enfin plutôt le streaming de jeux à distance via l'App Store est évidemment pas abordé parce que il est pas du tout implémenté. Mais c'est à se demander si ça rajouterait pas encore un degré de complexité. cité. Et je me suis même interrogé, moi, Aurélien, à mon niveau, pour voir si l'abonnement Apple Arcade avait pas pour ambition de un petit peu masquer ces transactions pour les englober dans les services d'Apple. Je parle là plus sur le plan stratégique que sur le plan juridique. Évidemment, c'est pas abordé dans le cadre de ce verdict, donc on peut pas trop développer. Mais je pense aussi que le fait de souscrire des abonnements Apple Arcade massivement, ça doit être évidemment beaucoup plus confortable sur le plan juridique pour Apple, j'imagine. Tu mentionnais l'histoire de la violation d'une loi californienne. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus à ce sujet?
Oui, alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'à la fin de ce jugement, après avoir dit finalement sur 200 pages que bon, Apple se justifie, etc., le juge se réfère à une loi californienne qui grosso modo reproduit les dispositions du droit fédéral américain concernant l'antitrust, mais qui ajoute certaines petites nuances. Et là, le juge dit, mais quand même, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est le fait que tout ça est pas très transparent. Et autant je peux comprendre finalement que y a des problématiques de sécurité peut-être sur des paiements, autant le fait de pas pouvoir sortir d'une application sous iOS pour aller sur un site web, pour par exemple être renseigné sur l'existence d'alternatives moins chères, voire même qu'on peut trouver le même jeu sur une autre plateforme, ça je trouve ça quand même pas très justifié. Et là le juge finalement en à peine deux pages du jugement dit bon non ben là finalement là ça va pas, et donc il prend cette mesure d'injonction en disant je vous enjoins Apple de permettre ça. Et donc c'est vrai que moi j'ai lu un peu sur internet différents commentaires sur est-ce que finalement avec ça il n'y a pas une brèche qui s'ouvre, est-ce qu'on pourrait pas aller faire des paiements en dehors de la plateforme, etc. Mais moi déjà je suis un peu dubitatif là-dessus, techniquement est-ce que c'est possible et est-ce que ça fonctionnerait. Et puis par ailleurs je pense que l'enjeu là c'était vraiment d'essayer de faire sauter les verrous in-game. Parce que on sait bien que c'est ça qui intéresse éventuellement les consommateurs. Il faut qu'il y ait une facilité. Il faut pas qu'on aille sur un site, un tiers, éventuellement payer ailleurs, avoir des codes, je ne sais quoi. Tout ça, on a déjà perdu la moitié, voire plus, des gens qu'on voulait essayer d'attirer. Donc c'est un peu une petite mesurette. C'est un peu la cerise sur le gâteau à la fin du jugement, je dirais, ce truc-là.
Bon, ça c'est les États-Unis une problématique qui était intéressante à aborder et que tu as suggéré et qui est hyper intéressante en fait dans le cadre de la préparation de cette émission. Tu disais en Europe finalement, parce que on a aussi le regard tourné vers la régulation sur ce sujet-là en Europe, mais est-ce que on peut s'appuyer sur ce verdict? Quels enseignements on peut tirer de ce jugement? Est-ce que les choses pourraient être différentes en Europe finalement?
Alors oui, parce que bon, déjà Tim Sweeney, ou Epic a déposé une plainte au niveau de la Commission européenne, donc en Europe. Et il faut savoir que la Commission européenne est très puissante en antitrust en Europe et elle est tout à fait capable et en mesure de prendre des décisions qui sont pas les mêmes que celles d'un juge américain. Et c'est même déjà souvent arrivé dans le passé que le juge entre guillemets de l'antitrust, qui est la Commission européenne en Europe, soit plus sévère que le juge américain ou les autorités américaines. Aux États-Unis, en antitrust, il y a une forme de tolérance, on va dire, sur certaines pratiques qui est plus forte qu'en Europe. En Europe, condamner une entreprise pour dominance, c'est quelque chose auquel on est beaucoup plus habitué, je dirais, qu'aux États-Unis, ne serait-ce qu'à cause de notre historique d'anciens monopoles d'État. Donc, à la fois, alors la définition de marché, est-ce qu'il y a un marché spécifique des applications de Apple ou est-ce que c'est le marché général de toutes les applications qui sont ou de tous les jeux, les applications de paiement dans les jeux? Bon, ça c'est peut-être un peu la même chose, faut voir. En revanche, ne serait-ce que le seuil de dominance, par exemple, quand le juge américain dit en dessous de 65 à 70% de part de marché, on peut pas être dominant, ça en Europe, c'est pas vrai. En Europe, on peut l'être déjà au-dessus de 50%, ça dépend du marché, ça dépend de tout un tas de facteurs. Pareil pour les restrictions acceptables. Quand je lis le jugement américain, moi avec mon regard d'avocat antitrust européen, je vois quand même énormément de critiques sur les effets anticoncurrentiels, ne serait-ce que par exemple la marge énorme que fait Apple sur ses commissions, en Europe, c'est pas du tout certain que ça passerait. Donc c'est pas complètement perdu non plus. C'est pas impossible que en Europe les choses soient un peu différentes. Après, est-ce que Epic Est-ce que Tim Sweeney, de manière générale, n'a pas un tropisme un peu beaucoup plus américain? C'est pas impossible. Est-ce qu'il met vraiment la gomme sur sa plainte européenne, alors que je pense qu'elle pourrait avoir des chances de succès? À voir.
Bon, ça lui appartient évidemment cette stratégie. Peut-être que d'ailleurs les arbitrages qui ont lieu aux États-Unis vont le faire réévaluer ses actions ailleurs dans le monde et notamment en Europe. Justement, un petit mot peut-être à l'issue. On sait que Epic a fait appel du jugement. Ça les satisfait pas. Évidemment, ils n'ont pas obtenu gain de cause. C'est quoi les prochaines étapes auxquelles on peut s'attendre?
Bah écoute, bon, il y a l'Europe comme je venais d'en parler, mais il y a aussi, comme tu viens de le dire, un appel qui a été fait aux États-Unis, donc rien n'est perdu, hein. La cour d'appel fédérale qui va se saisir, enfin qui a été saisie du dossier, va rejuger, elle peut complètement rejuger l'affaire si elle le souhaite, comme dit.
Un appel justement aux États-Unis, c'est je reprends les mêmes documents, je reprends les mêmes procédures et je refais, c'est un procès bis ou
Oui,
c'est pas
il
si
pourrait
simple?
refaire un procès bis, tout à fait, sachant qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est pas une affaire, il n'y a pas eu de jury, donc on est dans un dossier où on a juste un juge unique finalement, hein, tout seul, avec sa sensibilité à lui et qui a pris cette décision. Donc, ça tient pas à grand-chose, hein, ça tient juste à une personne. Donc, c'est vrai que l'appel, ça peut permettre de quand même potentiellement changer les choses. Et il arrive tout à fait que les cours d'appel fédérales renversent des jugements de première instance. Ce qui est sûr, en tout cas, à mon avis, c'est que les enjeux de ce dossier sont vraiment énormes. Je lisais encore un article de journal là, récemment sur les monnaies dématérialisées de type Bitcoin et compagnie, et avec la question qui se posait de savoir si demain ces monnaies électroniques finalement allaient pas permettre enfin allaient pas prendre le contrôle de tout et que celui qui détermine dans quelles conditions dans son app, en sachant que cette app représente une part de marché énorme, dans quelles conditions ça va s'appliquer, est-ce qu'il va primer, est-ce qu'il va prélever une espèce de taxe dessus, etc. Ça veut dire que demain, potentiellement, dans un monde qui serait un monde à la Ready Player One, là, ça serait un pouvoir absolu et énorme. Donc c'est ça l'enjeu quand même hein, de ce truc-là. Et Tim Sweeney, avec son fameux Project Liberty, là, qui est le nom de code de toute cette plainte qu'il a déposée et de tous ces efforts qu'il fait, quand lui il dit que pour lui il a une vision de ce qu'il appelle le métaverse, c'est cette espèce de monde un peu virtuel dans lesquels, mais vraiment à la Ready Player One hein, ou à Matrix dans une version encore plus négative, dans lesquels on pourrait évoluer dans quelques décennies, lui il dit mais si on peut fermer, si on peut verrouiller tout ça, le gars qui verrouille tout ça et qui met des commissions de 30% là-dessus, mais c'est le maître du monde. Donc c'est ça l'enjeu qui est derrière ce truc-là. C'est presque étonnant qu'on en parle plus, pas plus d'ailleurs dans les presses non spécialisées et la presse généraliste, parce que à mon avis, moi, les enjeux de ces procédures-là sont assez phénoménaux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Europe, peut-être, où il y a une grosse sensibilité sur la tech en ce moment, il pourrait y avoir des décisions intéressantes.
Ouais, j'imagine que la grosse difficulté, ça reste la temporalité, c'est-à-dire que là, on est quand même sur des échéances d'un premier jugement. Il va se passer du temps avant un appel, j'imagine. Est-ce qu'on a une idée du temps que ça peut prendre avant d'avoir un appel d'ailleurs? Ou...
Alors là, personnellement, j'en ai aucune idée, mais enfin,
Ouais.
globalement, à mon avis, au moins une année, hein.
Oui, d'accord. Oui. Oui, donc c'est là où on voit que la temporalité de la justice est différente et sans doute aussi que la presse s'active par étapes sur ces sujets-là. Probablement pas dans les proportions que tu décris, effectivement. Hyper intéressant de voir les enjeux. Merci beaucoup Aurélien, parce que sur des sujets aussi complexes, on peut avoir facilement des interprétations erronées, surtout quand c'est des journalistes tech qui abordent le sujet et sur lesquels on lit le travail. C'est bien d'avoir des personnes qui connaissent et qui maîtrisent bien leur sujet. Aurélien, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel?
Écoute, moi je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, je m'en méfie un peu, je dois avouer. Mais on
T'es pas le
trouve.
seul dans ta café, tu le sais.
Mais on me retrouve assez facilement en googlant mon nom à Aurélien Condomine ainsi que mon cabinet.
Merci beaucoup Aurélien. Si vous découvrez Tech Café, vous aurez toutes les infos complémentaires pour vous abonner, en savoir plus sur l'émission sur techcafé.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. Écoutez, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.